Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Et l'émission préparée ce matin par Bertie Bourdon, mais aussi Mélanie Chalandon, Margot Leury, dont Nicolas Sendé, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Olivier Arnay. Presque 5 ans après l'accord de Paris signé lors de la COP21, nous avons choisi de revenir sur les avancées en matière climatique. Nous parlerons de la Chine qui cherche à se placer en nouveau leader dans l'arène diplomatique climatique. On parlera de l'Europe également, qui porte de grandes ambitions mais qui doit faire face, comme souvent, à des divisions internes. Nous évoquerons également la Russie, qui a pris conscience de l'enjeu mais qui, en même temps, aperçoit les perspectives que lui offre le réchauffement climatique. Mais pour commencer, direction les États-Unis, le retour du fils prodigue, toujours accro au pétrole.
Les États-Unis vont quitter l'accord de Paris sur le changement climatique. Alors que nous sommes les meilleurs dans la protection environnementale, on ne va pas se laisser imposer des obligations par les plus grands pollueurs.
Une action globale requiert un leadership américain. Les États-Unis représentent seulement 15% des émissions de gaz carbonique. Le reste du monde doit parvenir à cela. Et donc, dès le premier jour suivant mon élection, je rejoindrai l'accord de Paris sur le climat. Vous avez raison de retourner dans l'accord dès le premier jour. Et vous avez raison de dire que l'accord de Paris seul n'est pas suffisant. Depuis le sommet mondial de Glasgow l'an dernier, toutes les nations doivent revoir leurs ambitions à la hausse ensemble, ou bien nous échouerons tous ensemble. Et l'échec n'est pas envisageable.
Dans l'ordre, Donald Trump, Joe Biden et John Kerry l'a régulièrement répété au cours de sa campagne. Alors que l'administration Trump avait quitté l'accord de Paris, l'une des premières décisions de Joe Biden sera de le rejoindre. Le geste a déjà commencé à se joindre à la parole puisque Biden a annoncé la nomination de John Kerry au poste inédit de représentant spécial des États-Unis pour le climat. Mais au-delà de cette nomination, il va falloir se pencher sur ce que pourrait être l'action politique du futur président en matière environnementale. Le 46e président des États-Unis ambitionne de redonner du souffle à la coopération mondiale pour maintenir l'élévation de la température en dessous des 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Mais pour y arriver, son pays devra diminuer de 28% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025. Alors comment compte-t-il s'y prendre? Jusqu'où pourra-t-il engager une rupture par rapport à son prédécesseur? Trump avait assumé un soutien clair au secteur pétrolier, mais qu'en sera-t-il de Biden? Peut-il se passer de l'or noir? À quel prix? Et sous quelles conditions? Et puis, quelle que soit l'ambition du prochain président, de quelle marge de manœuvre il disposera vraiment, à la fois sur le plan intérieur, mais aussi dans l'arène internationale? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin d'abord Maya Candel. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes historienne des États-Unis, chercheuse associée à Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Avec nous également Sophie Mérité. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes, vous, économiste, maîtresse de conférence à l'Université Paris-Dauphine. Le 3 novembre, donc, Biden a annoncé la nomination de John Kerry au poste d'envoyé spécial dédié à la lutte contre le réchauffement climatique au sein de son administration. 3 décembre, pardon. C'est lui qui, en 2015, avait signé l'accord de Paris en tant que secrétaire d'État. C'est évidemment, Sophie Mérité, un symbole très fort. Biden marque de façon très claire que les États-Unis sont de retour dans l'arène internationale pour relever le défi climatique, qui est un défi collectif. Sophie Mérité.
Oui, tout à fait, ça va même au-delà. Mais c'est vrai que de nommer Kerry, qu'on appelle gentiment le tsar climatique, climate tsar, c'est une communication extrêmement forte, d'autant plus, comme vous l'avez rappelé, c'est lui qui avait signé au nom des États-Unis l'accord de Paris. Mais au-delà de ça, Kerry, il est très connu dans l'énergie, puisque sous le mandat d'Obama, il avait proposé un projet de loi énergie-climat, et qui était déjà assez significatif en termes des émissions, notamment de gaz à effet de serre, en diminution. Et donc là, de le nommer, c'est clair qu'il y a un message très fort. Mais je pense que ça va au-delà de ça. Ça permet aussi de donner un regain dans la diplomatie climatique. Ouais. Et ça, c'est important.
Alors justement, la diplomatie climatique, Maya Candel, quelle sera la place de John Kerry, le tsar climatique, dans les futures négociations internationales sur le climat? Est-ce qu'il sera aussi important, voire plus peut-être, que le futur chef de la diplomatie américaine, Maya Candel?
Alors ça, c'est une excellente question. Et bon, comme pour toute l'administration Biden, c'est vrai qu'on est encore dans l'expectative, l'attente de la prise de fonction de Biden. Mais il y a déjà un certain nombre de signaux qui sont très intéressants. Et le premier, c'est que Biden a d'ores et déjà dit que John Kerry aurait un siège sur le Conseil de sécurité nationale à la Maison Blanche. Et le Conseil de sécurité nationale, le NSC, c'est vraiment un peu l'organe central qui détermine les grandes orientations de la politique étrangère et de l'action internationale des États-Unis et qui harmonise aussi les actions de toutes les différentes agences, donc aussi bien le Pentagone, le Département d'État, mais aussi par exemple le Trésor qui a pris une place très importante dans la politique étrangère des États-Unis ces dernières années, notamment vis-à-vis de la Chine. Donc bref, en fait, c'est une manière aussi de mettre du climat dans toutes les questions, en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a vraiment une volonté de la part de cette nouvelle équipe de considérer et de l'importance du changement climatique, de la menace que ça représente. On a vu aussi que il y a un vocabulaire de guerrier, de menace existentielle qui transparaît dans de nombreuses prises de parole. Et ça, je crois que c'est aussi le résultat des primaires aussi démocrates, où il y avait une vingtaine de candidats qui tous quasiment avaient mis la question de la lutte contre le changement climatique au cœur de leur programme.
Sophie Mérité, les États-Unis n'ont pas toujours été, c'est le moins qu'on puisse dire, des partenaires faciles dans les sommets sur le climat. Alors certes, ils avaient signé l'accord de Paris, mais d'abord, il faut se souvenir que ça a été une très grosse lutte à l'époque, une très grosse bataille diplomatique. Et puis, par le passé, Washington n'a pas toujours eu la réputation d'être un partenaire très fiable. Rappelons peut-être que les États-Unis avaient signé le protocole de Kyoto en 1997, sans le ratifier ensuite. Quel genre de partenaires ils vont être là dans les négociations internationales, Sophie Mérité ? À quoi est-ce qu'il faut s'attendre avec la future administration ?
Alors, c'est là où c'est compliqué, parce qu'effectivement, Clinton, on adopte le protocole, mais c'est abandonné par l'administration Bush. Obama s'engage à Copenhague et c'est rejeté l'année suivante par le Congrès. L'accord de Paris, après, c'est dénoncé par Trump. Donc, c'est vrai qu'au niveau climatique, au niveau international, on se retrouve dans une position américaine où on est habitué aux volte-face. Après ce retour dans l'accord de Paris, il est extrêmement symbolique pour dire les États-Unis, voilà, nous sommes à nouveau présents et on va se retrouver avec au moins un partenaire avec lequel on va pouvoir discuter à nouveau. Et ça, c'est important. Et évidemment, on pense qu'on va avoir un peu plus de multilatéralisme, même si on va reprendre aussi le bilatéralisme.
Maya Kandel, vous pensez que Biden va pouvoir convaincre le monde que désormais les États-Unis sont un partenaire fiable dans la diplomatie climatique ? Parce que, encore une fois, c'est très très loin d'être une évidence. Au-delà de l'ère Trump, Maya Kandel.
Sophie Mérité a absolument raison de rappeler ces volte-face successives, et c'est un problème qu'on retrouve avec les États-Unis sur d'autres sujets, qui est lié à la polarisation, en fait, à la politisation d'un certain nombre de sujets de politique internationale. Le climat en est un, mais il y en a d'autres, on pourrait parler d'autres sujets. Et évidemment, il y a un problème de confiance vis-à-vis de ce partenaire très inconstant. Mais d'un autre côté, il y aura d'autres problèmes aussi pour Biden. Il y a le problème intérieur, là encore, Sophie Mérité rappelait le rôle du Congrès. Là, il y a cette incertitude, je pense qu'on en reparlera, sur est-ce que Biden aura un Congrès démocrate qui va l'aider à légiférer. Mais après, comme c'est un problème effectivement qui n'est pas nouveau, Obama déjà, il avait eu 2 ans de Congrès démocrate et ensuite 6 ans d'opposition au Congrès divisé, il avait commencé à mettre en place, à utiliser d'autres instruments réglementaires, etc. Donc, il y a des voix, il y a d'autres voix, il y a aussi une prise de conscience de la part aussi bien de l'opinion américaine, mais aussi du secteur privé. Là, il y a eu un engagement de la part de toute une série d'entreprises privées. En fait, c'est un problème dont les Américains sont très conscients, et puis dont un certain nombre d'États, aussi bien républicains que démocrates d'ailleurs, subissent déjà les conséquences de cette crise.
On va revenir évidemment à Maya Kandel sur les limites sur le plan intérieur. On va commencer par la dimension diplomatique, dimension extérieure. Sophie Mérité, il y a évidemment les discussions internationales, il y a le multilatéralisme, et puis il y a évidemment la bataille à laquelle il faut s'attendre avec Pékin. Parce que le mandat de Trump a été bien sûr marqué par le lancement d'une guerre commerciale inédite de Washington envers Pékin. Alors bien sûr, les formes pourraient changer, mais on voit bien, les observateurs sont assez unanimes pour dire que Biden va poursuivre tout cela. Donc tout porte à croire qu'avec le retour des États-Unis dans les négociations internationales sur le climat, on va retrouver évidemment cet antagonisme entre les États-Unis et la Chine, qui sont quand même les deux plus gros pollueurs de la planète. Comment vous voyez-vous le futur de ces relations sino-américaines dans le champ de la diplomatie climatique? Est-ce que la coopération est possible ou est-ce qu'il faut s'attendre à une bataille extrêmement rugueuse, Sophie Mérité?
Alors moi, je suis plutôt une optimiste dans la vie.
C'est très bien, vous avez raison. On en a besoin en ce moment.
Tout à fait. Et effectivement, sur la relation États-Unis-Chine, au moins, on va avoir un acteur qui ouvre la discussion. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, comme vous le dites, que les discussions vont être apaisées et vont mener à quelque chose. Mais au moins, on peut discuter. Et ça, ça va quand même changer par rapport à Trump. Et si on se souvient, Obama avait engagé des relations ou des discussions bilatérales avec la Chine. Et donc moi, je pense qu'effectivement, on va avoir à nouveau des discussions entre les États-Unis et la Chine. Maintenant, attention, l'enjeu derrière qui est environnemental, il est important pour les États-Unis. Et Biden l'a bien annoncé. Il compte tenir un certain nombre de ses promesses, et notamment sur tout ce qui est l'utilisation des outils de la politique commerciale pour promouvoir l'énergie propre. Et là, on voit bien que derrière, on a aussi des importations de technologies propres, de batteries, lithium. Et là, derrière, c'est la Chine qui est visée aussi.
Maya Candel, sur ce point.
Eh bien, moi, je pense que, enfin, d'une part, les annonces de Xi Jinping en septembre ont quand même relancé une forme d'espoir. Donc j'ai envie, sans être naïf vis-à-vis de la Chine, on sait très bien que la Chine se fixe là un objectif pour 2060. Biden a parlé de 2050 pour
l'objectif de neutralité carbone. Voilà, c'est ça.
Voilà. Et y a un effet d'émulation, bon, aussi parce qu'on arrive aux 5 ans de l'accord de Paris et que donc chaque pays est en train de fixer ses objectifs nationaux, ses contributions par pays. Et je pense que là, l'annonce chinoise a eu un effet. Et
Biden pourrait répondre à ça, Maya Candel. Est-ce qu'on pourrait avoir une annonce du même genre? C'est évidemment dans son projet, la neutralité carbone, je crois même à l'horizon 2050. Mais est-ce qu'il pourrait l'affirmer en tant que président?
Ah, je pense absolument, ouais. Oui, ça va prendre un petit peu de temps parce que c'est quand même quelque chose d'assez sérieux qu'il faut développer, et là l'administration prend ses fonctions fin janvier. Mais je crois qu'au cœur de toute façon de l'action internationale de l'administration Biden, il y aura aussi cette question de l'attitude de la politique vis-à-vis de la Chine. Et là effectivement, il va garder un certain nombre de choses de l'administration Trump, mais sur la focale d'ensemble, disons, par exemple dans le programme démocrate, on voit très bien qu'il y a un refus d'entrer dans une logique de guerre froide et une volonté de trouver des domaines de coopération, notamment pour ce qui est considéré comme le défi existentiel dans ce même programme démocrate. Et ce défi existentiel, c'est pas la Chine, c'est le changement climatique. Donc je pense qu'il y a une vraie volonté, appuyée sur l'opinion, appuyée par on voit les critères de recrutement, et là il y a John Kerry, mais il y a aussi Ron Klain, il y a beaucoup de gens qui sont quand même recrutés pour mettre le climat au cœur des enjeux. Et tout simplement, il y a un appui de l'opinion, et là-dessus, il y a un appui bipartisan.
Oui, sauf que la question est de savoir si ça va suffire, malheureusement, de nommer des personnalités qui veulent agir pour le climat, et même d'avoir le soutien de l'opinion, parce qu'il y a un moment, il faut faire passer les choses politiquement. Maya Candel, je poursuis un instant avec vous, et ensuite je vous donne la parole, Sophie Mérité, mais il y a encore une incertitude sur la couleur du Sénat. On attend les élections en Géorgie, qui se dérouleront en janvier prochain. C'est un État qui est traditionnellement conservateur, même si il n'est absolument pas exclu qu'il soit gagné par les démocrates, mais faisons l'hypothèse que le Sénat reste républicain. Quelle marge de manœuvre il reste à Biden en matière de politique environnementale, Maya Candel?
Oui, c'est vrai que pour la Géorgie, c'est très serré. Donc, bon, disons, si le Sénat reste républicain, je dirais qu'il y a deux voies. D'abord, Obama avait beaucoup agi par la voie réglementaire, et notamment par des directives à l'Agence de protection de l'environnement, en utilisant des lois, le Clean Air Act des années 70. Et ça, Trump a défait énormément de choses. Mais justement, je vérifiais hier soir pour préparer justement l'émission. Et en fait, chaque décision de Trump, donc par exemple l'Université Columbia dit qu'il a défait 160 régulations, bon, il y a réglementation, il y a différents chiffres, mais toutes ces décisions de Trump ont été attaquées en justice par soit des États, des villes, des organisations environnementales, et pour l'instant, il a perdu, Trump, dans 87% des cas. Donc ça, déjà, ça signifie que finalement, son bilan ne sera pas si désastreux que ça en termes d'héritage, même si bien sûr tout ce qui est allé dans l'atmosphère, disons, pendant ces quatre ans, c'est perdu pour la planète et pour nous.
Pas aussi irréversible qu'on a pu parfois le penser, en fait.
Voilà, c'est-à-dire tous les gaz à effet de serre en plus, ça c'est irréversible. En revanche, c'est comme l'Amazonie, la forêt qui a brûlé, c'est irréversible. Mais en termes de réglementation, c'est pas irréversible. Il y a certains États qui ont été contre. Et puis le deuxième point par rapport à l'hypothèse du Congrès, je dirais la chance entre guillemets qu'il y a là, l'opportunité qu'il peut y avoir, c'est par rapport au plan de relance lié à la pandémie et à la crise économique actuelle. Et là, Biden a mis en avant un programme très très ambitieux et je pense qu'il y a sur certains points de ce programme, il y a des éléments où il pourrait y avoir un accord bipartisan, surtout si c'est fait sous le chapeau d'un plan de relance et pas d'un Green New Deal qui donne de l'urticaire aux républicains.
Et ben venons-en justement, Maya Kandel. Qu'est-ce que vous voyez dans ce plan de relance qui pourrait faire l'objet d'un accord bipartisan? Et ensuite, je vous promets, Sophie Mérité, je vous fais agir tout de suite. Mais Maya Kandel, puisque vous en parlez.
Alors, le premier point, je crois, c'est sur les infrastructures, parce que là, alors c'était devenu une blague pendant 4 ans à Washington, puisque Trump voulait chaque semaine lancer Infrastructure Week, la semaine des infrastructures. Bon, et ça n'est jamais arrivé. Il y a vraiment une marge. D'abord, il y a les infrastructures routières, ferroviaires, etc. Aux États-Unis, ça tombe en décrépitude totale. Ça concerne des États républicains comme démocrates, encore une fois, et les républicains voulaient. Il y a un certain nombre de républicains qui seraient tout à fait prêts à voter pour des grands projets qui amélioreraient les transports, mais surtout donneraient des emplois dans leur État. Donc là, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Il y a aussi toute une série de projets pour les villes, pour transformer aussi un certain nombre d'industries énergétiques. Ça a beaucoup progressé, les renouvelables aux États-Unis. Et là encore, je veux dire, si ça donne des emplois, si ça permet une relance État par État, ça va se jouer, ça va être en fonction des différents États. Les démocrates peuvent tout à fait avoir avec eux des républicains. Et puis le dernier point, un autre point, c'est la volonté alors c'est pas des nouveaux accords de libre-échange, mais cette idée de protectionnisme économique qui vient largement de Trump, mais dont certains aspects sont repris par Biden. Hein. Pendant l'été, il a fait une campagne très populiste aussi dans les États qui ont été déterminants. Mmh. Et là, il y a des initiatives qui peuvent être menées d'ailleurs avec les Européens pour taxer, pour mettre des droits sur des produits d'importation en fonction de leur bilan énergétique.
Sophie Mérité, quand j'entends Maya Kandel, je me dis que là aussi, on a beaucoup d'optimisme. On voit qu'en réalité, quand bien même on aurait un Sénat à majorité républicaine, Joe Biden va pouvoir faire des choses. Il y a des marges de manœuvre réelles, Sophie Mérité.
Évidemment, et Maya le rappelle très bien. Faut pas oublier qu'Obama avait lui-même un Congrès qui n'était pas démocrate pendant une grande partie de son mandat. Et pourtant, des choses ont été faites. C'est vrai que de passer par les agences fédérales, c'est un moyen qui peut être efficace. Et effectivement, de très nombreuses réglementations ont aussi été invalidées. Donc, on sait que c'est un moyen, mais qu'il faut faire également attention derrière. Et puis,
Fédérales, excusez-moi de vous couper, mais c'est très important parce qu'il va y avoir une agence qui va peut-être retrouver un rôle, c'est l'Agence américaine de protection de l'environnement. On se souvient que Trump avait nommé à sa tête Andrew Wheeler, qui est un climato-sceptique, un ancien lobbyiste de l'industrie du charbon, et en réalité, il a totalement neutralisé l'agence. Est-ce que, on imagine évidemment qu'avec Biden, il va rapidement lui trouver un remplaçant. Est-ce que c'est une excellente nouvelle? Jusqu'où est-ce que ça va permettre de mettre en musique, au fond, ce programme écologique de la future administration Biden?
Évidemment. Alors, heureusement, vous n'avez pas parlé du prédécesseur avant Wheeler, hein, parce que Scott Pruitt, hein, c'était pas vraiment mieux.
Mais il a démissionné, lui.
Oui, tout à fait, mais il valait peut-être mieux, parce que c'était... Bon, c'est un... Il a un dossier, un passif et un passé lourd. Mais c'est vrai que et Andrew Wheeler en fait était un ancien lobbyiste du charbon et c'était sa mission première était très claire, hein, c'était de détruire l'héritage d'Obama. Là, on annonce, alors évidemment rien n'est officiel et plein de noms sortent, mais on annonce Mary Nichols qui était en fait la régulatrice de Californie, donc la présidente de l'agence pour la qualité de l'air en Californie qui serait en shortlist pour reprendre l'EPA. On parle aussi un petit peu en deuxième possibilité de Colin O'Mara qui est président du National Wildlife Federation. Donc on voit bien que là, clairement, on n'a plus des climato-sceptiques, on n'a plus des lobbyistes pour les énergies fossiles. Et c'est vrai que l'EPA, c'est un outil qu'avait aussi utilisé Obama et que Trump a utilisé pour soit d'un côté tricoter ou détricoter la réglementation environnementale.
Et sur ce que disait Maya Kandel tout à l'heure, c'est-à-dire sur le plan, le grand plan de relance de Joe Biden, je crois qu'il est à peu près à 2000 milliards de dollars sur 4 ans, c'est donc 10% du PIB national, c'est absolument énorme. Qu'est-ce qu'il y a dans ce plan pour porter justement cette ambition climatique, Sophie Mérité, et qui pourrait faire consensus, comme le disait tout à l'heure Maya Kandel, consensus politique?
Alors vous avez différents éléments, hein, parce que ce plan, évidemment, il est très large. On parle beaucoup de l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments. Et donc là, il attaque clairement les factures énergétiques. Et donc en finançant de la rénovation, en construisant des logements à basse consommation. On parle également, évidemment, de la modernisation des infrastructures. Et là, Biden va dans son programme également jusqu'aux routes intelligentes, en parlant des réseaux en eau, les réseaux de transport municipaux. Il a aussi clairement un objectif de leadership de l'industrie américaine de véhicules électriques, avec des incitations à l'achat de véhicules électriques, attention, fabriqués aux États-Unis. Petite anecdote qui est assez intéressante aussi, il veut le passage de la flotte gouvernementale à des véhicules électriques. On n'avait jamais vu ça. Et évidemment, on a l'électricité décarbonée, mais là, l'objectif, c'est 2035. Et tout ça derrière, ça doit permettre de créer des emplois, de réduire les coûts énergétiques et évidemment de protéger le climat. Et là où je rejoins Maya, c'est que ce qui est intéressant, et on l'avait déjà eu avec Obama, qui n'avait pas pu faire passer sa loi énergie-climat, Obama était passé par American Recovery Act, où là, il avait mis des financements, des investissements pour sortir de la crise économique, mais qui étaient dédiés aux énergies renouvelables. Donc on sait que de toute façon, il y a toujours des moyens de faciliter et d'inciter aux énergies renouvelables. Et de toute façon, clairement, le nouveau mandat présidentiel sera le témoin d'une accélération des projets renouvelables.
La question, évidemment, l'une des grandes questions qui se posent pour les 4 années qui viennent, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre comme évolution s'agissant de la question du pétrole. On se souvient qu'évidemment, Donald Trump avait soutenu de façon quasiment outrancière ce secteur pétrolier. On va en parler tout de suite.
Le prix du baril a considérablement chuté avec la crise. Il est même passé en négatif, sous la barre des 0 $. C'est historique. C'est dû à la forte baisse de la consommation de pétrole dans le monde, à cause du confinement et de la paralysie totale. Il y a moins de demandes, donc nous avons trop de stocks et ce n'est plus rentable.
Si le pétrole va mal, tout va mal. La crise affecte non seulement tous ceux qui travaillent sur les champs de pétrole, mais aussi les métiers qui sont autour, les services, l'industrie du sable, l'industrie chimique qui aide à la fracturation hydraulique. Vous ne verrez personne ici qui n'a pas été touché par la crise.
Voilà, extrait d'un reportage qui avait été diffusé dans C'est dans l'air il y a quelques jours. Maya Kandel, je le disais, évidemment Donald Trump a beaucoup soutenu le secteur pétrolier. C'était l'une de ses marques de fabrique, si je puis dire. On attend à ce que son successeur Joe Biden essaye de revenir un petit peu là-dessus. Mais il y a déjà un premier élément qu'on entend, c'est qu'avec cette crise sanitaire, on se retrouve dans une situation économique très difficile et comme, pour reprendre la phrase qu'on a entendue dans cet extrait-là, aux États-Unis, quand le pétrole va mal, tout va mal. Donc jusqu'où Biden va vraiment pouvoir sortir de les États-Unis de cette dépendance au pétrole, hein, il faut savoir que le secteur énergétique américain s'appuie très largement sur les combustibles fossiles et en particulier sur le pétrole, jusqu'où Biden va pouvoir justement désengager son pays de l'or noir, Maya Kandel.
C'est toute la question, parce qu'effectivement, là où Biden était critiqué pendant la campagne par rapport à d'autres candidats démocrates, c'était justement sur sa position. Il s'est jamais, jusqu'au tout dernier débat où il a été plus ambigu, mais sinon il s'est jamais, par exemple, prononcé contre la fracturation hydraulique, alors que c'était le cas de Warren, de Sanders. Et puis plus largement, Biden, c'est quand même un centriste, c'est-à-dire que son ambition ne va pas jusqu'à celle du Green New Deal d'Alexandria Ocasio-Cortez, où il y avait une vraie réflexion de changement de système, d'essayer de désaccoutumer. Je crois que c'était George Bush qui disait que les États-Unis étaient addicted
au pétrole.
Accro au pétrole.
On a repris le terme dans notre titre, vous avez remarqué, hein, le retour du fils prodigue, toujours accro au pétrole, justement, c'était une référence à Bush. Je vous en prie.
Exactement. Donc, là-dessus, il s'était prononcé dans le dernier débat. Il a eu cette phrase contre la fracturation hydraulique. Il y a même des gens qui pensent que ça lui a coûté peut-être certains États, ou en tout cas des voix au Texas et ailleurs. Donc, et puis plus largement, en fait, dans l'ambition sur les bâtiments, par exemple, ne construire que des nouveaux bâtiments neutres au niveau du carbone, c'est aussi une manière de lutter là-dessus, parce que quand on va aux États-Unis, on voit bien, il fait beaucoup trop froid, ils sont complètement accros à cet air climatisé, beaucoup trop froid, c'est trop chauffé, enfin il y a un gaspillage énergétique aux États-Unis, et ça c'est pas réglé. J'avais oublié, dans les secteurs aussi importants que sur lesquels Biden s'est prononcé, il y a aussi l'agriculture qui est un enjeu important, mais je m'écarte un peu de votre question.
Non, on est en plein dedans. Sophie Mérité, jusqu'où Biden peut, selon vous, sortir les États-Unis de cette dépendance au pétrole?
Mais c'est clair que la mère des batailles, c'est le désinvestissement des énergies fossiles. Parce que quand vous prenez la consommation d'énergie aux États-Unis, le charbon, Trump voulait relancer le charbon, mais en fait le charbon économiquement, et je vais être un peu provocatrice, mais est mort. Les énergies renouvelables, Trump voulait ne plus les développer, ou en tout cas ne plus les aider, mais en fait le marché a très bien parlé, les énergies renouvelables sont bien présentes, et aujourd'hui on produit plus d'électricité à partir de renouvelables qu'à partir de charbon, ce qui est quand même la première fois depuis 1885. Quand on s'intéresse maintenant au pétrole et au gaz, il faut savoir qu'aujourd'hui, donc les chiffres là commencent à tomber sur 2020, le pétrole serait la deuxième source d'énergie utilisée aux États-Unis, alors que ça a été évidemment oil addiction depuis des décennies, et ça serait le gaz qui est passé devant le pétrole. Sur le problème, en tout cas, c'est un peu cette ambiguïté de Biden. Évidemment, il veut faire une transition progressive des industries hydrocarbures vers les énergies renouvelables, mais il ne peut pas aujourd'hui se passer du gaz et du pétrole. Premièrement, alors sur la fracturation hydraulique, il dit clairement qu'il n'est pas contre, parce que de toute façon il ne peut pas s'en passer, mais par contre il dit qu'il veut la réglementer. Et ça c'est important, parce que quand même Trump avait enlevé la réglementation, notamment sur les émissions de méthane et ainsi de suite. Donc là, il veut continuer la fracturation, mais mieux l'encadrer. Après, comme le dit très bien le reportage, on a quand même un problème aujourd'hui de rentabilité de l'industrie non conventionnelle aux États-Unis.
Il veut remettre de la réglementation, même si tout à l'heure Maria Cornell nous disait que le travail de déréglementation de Donald Trump n'a pas pu aller aussi loin que ce qu'il aurait voulu, le président actuel. Mais si on regarde très concrètement, Sophie Mérité, les choses aux États-Unis, par exemple, sur le pétrole, il y a deux grands projets là d'oléoduc qui provoque très régulièrement des controverses, le Keystone XL et le Dakota Access, le premier ayant pour objectif de transporter le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta jusqu'aux raffineries de l'État du Texas sur près de 2000 km, et puis le second permet, lui, de transporter du pétrole de schiste du Dakota du Nord jusque dans l'Illinois. À l'époque de Barack Obama, par exemple, ces projets avaient été rejetés. Et puis ensuite, ils avaient été relancés par décret par Trump à son arrivée à la Maison-Blanche. La position de Biden sur ces deux projets, c'est quoi? Voilà, quand même quelque chose d'important. Ça devrait être un indicateur, Sophie Mérité.
Alors là, concrètement, faut quand même savoir que même si Trump a relancé les projets, ils ne sont pas construits. Donc, on est toujours aussi dans une situation de blocage.
En construction.
Il y en a
le Dakota
un,
Access.
Voilà, mais l'autre, le Keystone, de mémoire, n'est toujours pas lancé, mais de mémoire. Hein. Biden, excusez-moi, lapsus non révélateur, Biden, lui, est très clair. Lui, son objectif, c'est de regarder l'impact des investissements et des infrastructures sur l'environnement. Donc, dès lors où il reprendra les résultats qui avaient été ceux d'Obama, à mon avis, on va avoir des infrastructures et des investissements qui vont quand même être un petit peu plus limités. Mmh. Encore une fois, c'est de l'encadrement.
Il y a l'impact sur l'environnement, mais il y a aussi, Sophie Mérité, et je vous donne la parole ensuite, Maya Kandel, l'impact sur l'emploi. C'est devenu, évidemment, depuis la crise sanitaire et économique, encore plus prégnant qu'avant. Ça l'était déjà, mais là, ça va l'être encore plus. Le secteur pétrolier, c'est à peu près peu ou prou 10 millions d'emplois aux États-Unis. Est-ce qu'on peut se désengager du pétrole en transformant ses emplois dans le secteur énergétique? Enfin, est-ce qu'on peut comme ça transférer les choses et produire des emplois dans le secteur énergétique en retirant côté pétrolier?
Alors je pourrais parler une heure, donc je vais faire très court.
C'est le cœur de votre travail, ça.
Exactement, c'est très compliqué de dire je vais faire des transferts d'emplois alors que je passe quand même d'énergie fossile à des énergies renouvelables. Ce ne sont pas les mêmes lieux, ce ne sont pas les mêmes compétences. Les transferts d'emplois, moi je ne m'y intéresse pas du tout, c'est trop compliqué quelque part. Mmh. Par contre, effectivement, on a 10 millions d'emplois. Et là, on le sait, c'est bien le problème aujourd'hui de Biden sur les énergies hydrocarbures. Premièrement, ce sont des emplois. Vous le rappeliez, 10 millions d'emplois. On sait que s'il est paralysé au niveau par un Congrès qui est plutôt non démocrate, de toute façon, Biden va pas pouvoir dire « mais je vais permettre le licenciement de 10 millions de personnes ». Ce n'est pas possible. En pleine crise, ce n'est pas possible. Deuxièmement, faut quand même pas oublier que derrière le pétrole et le gaz, c'est aussi la sécurité énergétique, l'indépendance énergétique des États-Unis. Et ça, on le voit bien, c'est bien ça l'ambiguïté. Ce sont des sources qui sont polluantes, mais en même temps, elles ont permis aux États-Unis de retrouver une suprématie énergétique. Et ça, c'est important.
Et oui, du point de vue géostratégique, Maya Kandel, évidemment, et c'est d'ailleurs sous Barack Obama qu'on avait atteint cette indépendance énergétique grâce à ce pétrole et ce gaz de schiste. Là, on est sur une question de souveraineté à laquelle on ne peut pas toucher, Maya Kandel. Au-delà de la question des emplois, qui est évidemment très importante et qui plus est depuis l'émergence de cette crise sanitaire, la question de l'indépendance énergétique des États-Unis, ça ne se négocie pas.
Oui, absolument. Là, il y a des facteurs géopolitiques clairs. C'est vrai qu'en plus, on parle de retour de la compétition stratégique, l'affrontement entre les États-Unis et la Chine. L'indépendance énergétique pour les États-Unis, c'est un énorme atout. On est encore quand même dans un modèle capitaliste mondial qui repose sur l'exploitation des énergies fossiles. Sur d'autres sujets aussi, avec cette approche géopolitique, cette indépendance énergétique, c'est quand même ce qui permet aux États-Unis, depuis Obama, de se désengager progressivement du Moyen-Orient, donc même s'ils n'ont pas fait la guerre d'Irak pour le pétrole, donc il y a quand même des éléments là qui sont importants. Et puis comme le rappelait Sophie aussi, Obama avait, Bush s'est vraiment entouré de pro énergie fossile quand il était président, mais Obama, même s'il a subventionné les renouvelables, son approche, on disait all of the above, donc il a poursuivi ses investissements, et ça répond à des choix de, enfin c'est plutôt le sujet de Sophie, mais c'est des choix de recherche aussi qui sont des décisions qui ont été prises même dans les années 90. Donc on voit bien aussi qu'il y a des choix politiques à faire de longue durée, qui ensuite ont des conséquences en termes d'emploi. Mais j'ai l'impression quand même que cette administration Biden veut aujourd'hui lancer, notamment en termes de programmes de recherche, des ambitions aussi de longue durée pour financer la recherche dans les énergies renouvelables, qui, dans un horizon plus lointain, pourront être source d'emploi au même titre que les énergies fossiles aujourd'hui.
Qu'est-ce qui est prévu, Sophie Mérité, dans le programme de Joe Biden pour développer les énergies renouvelables? Et au fond, est-ce que tout cela va vraiment avoir de l'importance? Parce que vous disiez tout à l'heure, Trump avait suspendu en arrivant les subventions en direction des énergies renouvelables, sauf qu'en réalité, elles ont continué à progresser dans le paysage énergétique états-unien. Donc on se dit que l'on prenne des décisions ou pas, dans un sens ou l'autre, de toute façon, c'est le marché qui dicte, et que tout cela a peu d'effet en réalité. Est-ce que je me trompe? C'est abusif, Sophie Mérité?
Non, moi j'aime à dire que Trump n'était pas entouré par les bonnes personnes. À savoir que Trump très clairement disait je suis contre les énergies renouvelables, je suis contre les aides, toutes les subventions, et donc on va laisser le marché parler. Et en fait le marché il a parlé. Les énergies renouvelables, elles ont été incitées sous Bush, mais également énormément sous Obama. Et en fait elles étaient compétitives quand Trump a pris la présidence. Et donc, ils pouvaient très bien s'attaquer aux énergies renouvelables. C'était déjà trop tard. Le marché avait parlé. Et on le voit bien, notamment par sa volonté de vouloir subventionner et d'aider le charbon. Là aussi, c'était trop tard. Ce n'est plus compétitif aujourd'hui de faire fonctionner des centrales à charbon comparé au gaz, dont le prix est assez faible, et comparé aux énergies renouvelables.
Oui, donc le fameux charbon bon, beau et propre que voulait relancer Trump, ça a été un échec. Effectivement, on le voit 4 ans après, ça n'a pas marché. Mais est-ce que pour autant, Sophie Mérité, j'entends bien, c'est le marché qui décide, mais est-ce que pour autant, soutenir les énergies renouvelables est sans effet ?
Ah non, c'est-à-dire que c'est des questions d'accélération, des questions aussi d'images qui sont extrêmement importantes.
Mais alors jusqu'où on peut justement accélérer du côté de Biden sur les 4 prochaines années, là, si on met le paquet sur les énergies renouvelables, aujourd'hui c'est à peu près, c'est 12% de la production d'énergie, j'ai regardé les renouvelables aux États-Unis, et c'est un peu plus de 11% de la consommation. Si on met le paquet sur les 4 prochaines années, on peut espérer quoi?
Alors certes c'est 11%, mais dans ces 11%, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'une grande partie c'est de la biomasse, et après vous avez bon évidemment l'hydroélectricité, mais après c'est l'éolien. Et là aussi, c'était intéressant que le gouverneur du Texas, hein, qui est quand même le premier État de production d'énergie renouvelable, soit nommé à la tête d'une institution énergétique où il remettait en question les renouvelables. Donc vous voyez qu'il y a aussi plein d'ambiguïtés quand même dans Trump. Mais pour revenir à votre question, là, l'idée de Biden, c'est la création d'emplois, c'est du soutien en recherche et développement, c'est également, on le voit, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les voitures électriques, sur les infrastructures, tout ce qui est smart grids, tout ce qui est innovation.
Réseau intelligent, smart grid.
Oui, pardon, excusez-moi.
Je vous en prie.
Et pour moi, quand on me fait parler des États-Unis hein, dans l'énergie, je cite toujours deux éléments, le pragmatisme. Parce que les Américains sont pragmatiques. Et là, on le voit bien. Obama, Maya l'a rappelé, ne pouvait pas se passer des énergies fossiles, même s'il avait le rêve d'une Amérique verte. Et c'est là où ils ont fait parler leur pragmatisme. Eh bien oui, on va développer les énergies fossiles, parce qu'on en a, mais on va les encadrer. Et en même temps, on va développer les énergies renouvelables. Pourquoi ? Deuxième mot-clé, l'indépendance énergétique. Et pour moi, donc pragmatisme et indépendance énergétique, derrière, vous avez le changement technique. Le changement technologique. Et les Américains, ce sont les premiers à investir dans ces directions.
Maya Kandel, c'est intéressant parce qu'on voit que, si on fait un peu le bilan, Trump a échoué à faire renaître le secteur du charbon. Il a arrêté de subventionner les énergies renouvelables, mais en réalité, elles ont continué à progresser. On voit aussi, on le disait tout à l'heure, vous le disiez, que Biden ne va pas pouvoir remettre en cause l'hégémonie du pétrole et cette dépendance au pétrole très forte. En réalité, les politiques n'ont que peu d'effet sur les transformations du paysage énergétique américain. Et finalement, les évolutions répondent à des impératifs économiques, technologiques, mais le pouvoir fédéral n'a quasiment aucun poids, Maya Kandel.
Alors, je ne sais pas si je dirais quand même que le pouvoir fédéral n'a aucun poids. Il y a par exemple un sujet sur lequel le fédéral a du poids, qui est la protection des espaces naturels et y compris les endroits où il y a des réserves importantes. Ça, c'est quand même un sujet où le pouvoir fédéral a du poids. Il y a deux choses aussi. Alors, il y a quand même une source d'inquiétude qui est que, comme on le mentionnait au début, il y a beaucoup de ces questions qui se règlent devant les tribunaux, voire jusqu'à la Cour suprême, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que là, autant sous Trump, il y a eu beaucoup d'organisations environnementales qui ont attaqué certaines décisions, ce qui a paralysé, voire annulé des décisions prises ou des déréglementations. On va sûrement voir l'inverse sous Biden. Et là, l'inquiétude, c'est aussi ce que l'administration Trump a fait en matière matière de renouvellement des cours d'appel et jusqu'à la Cour suprême, bien évidemment. Et vous vous souvenez peut-être que Amy Comey Barrett, la dernière juge nommée à la Cour suprême, ne s'est pas refusée de se prononcer sur la validité de la science sur le changement climatique. Donc là, il y a une question plus large d'attitude vis-à-vis de la science et d'interrogation sur la manière dont les juridictions ont été renouvelées. Ça, c'est un tout petit peu un peu d'inquiétude. Et ouais. L'autre point dont on n'a pas trop parlé, je pense que ça, c'est pas encore très clair, mais c'est un sujet qu'on peut suivre, c'est quel sera aussi le rôle de Kamala Harris sur cette question. Est-ce qu'on peut imaginer, quand elle était candidate aux primaires, elle avait adoubé le Green New Deal d'Alexandria Ocasio-Cortez. Elle a pris parole plusieurs fois sur la question du changement climatique. Et puis, bien sûr, elle vient de Californie, qui est quand même l'un des États les plus en pointe là-dessus. Donc je pense que c'est intéressant parce qu'elle pourrait avoir un effet d'entraînement juste par son pouvoir politique et ce qu'elle représente.
Ouais, en tout cas, j'entends cette inquiétude aussi, parce qu'il y a cette prédominance désormais de juges conservateurs à la Cour suprême et que ça pourrait constituer un obstacle dans cette aspiration à adopter des réglementations plus climato-compatibles. On est avec vous, Maya Kandel, et vous, Sophie Mérité, dans cette nouvelle semaine consacrée au climat. Aujourd'hui, on parle des États-Unis, le retour du fils prodigue, toujours accro au pétrole. On va s'intéresser au Green Party américain, qui avait quand même un candidat pour l'élection présidentielle. C'était Howie Hawkins, on va l'entendre tout de suite.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Le premier enjeu, c'est la crise climatique, et c'est là qu'intervient le Green New Deal. J'ai été le premier candidat à avoir fait campagne sur ce sujet en 2010 pour le poste de gouverneur de New York. Je proposais d'atteindre une énergie 100% renouvelable et d'atteindre le 0% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le deuxième enjeu, ce sont les inégalités économiques. Nous avons une proposition dans le Green New Deal pour en finir avec la pauvreté et l'insécurité économique. Cela inclut un droit au travail avec l'État comme employeur en dernier recours, un revenu minimum garanti, Medicare pour tous, des logements décents dans le secteur public, l'éducation publique tout au long de la vie, et enfin une retraite pour les seniors afin qu'ils ne travaillent pas jusqu'à leur mort parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources et qu'ils vivent sous le seuil de pauvreté.
Bonjour Gélaré Djaounsouz Ivar.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur d'histoire et de civilisation américaine à l'Université d'Angers. On oublie parfois que les élections américaines ne sont pas un duel entre le candidat démocrate et le candidat républicain, mais qu'il y a d'autres partis et d'autres candidats qui sont présents. Et cette année, le candidat du Green Party, c'était Howie Hawkins, en ticket avec une militante du Parti socialiste américain, en l'occurrence Angela Walker. Vous nous rappelez le résultat qu'ils ont obtenu l'un et l'autre, qu'est-ce qu'ils représentent en termes de vote populaire ?
En fait, au niveau de vote populaire, ils n'étaient pas très, très importants cette année. C'était peut-être le candidat de parti libertarian qui a eu plus d'impact sur les élections présidentielles aux États-Unis. Je n'ai pas les chiffres sur moi, mais le parti vert dans les élections 2020 n'ont pas eu un impact. C'était ce que craignaient les écologistes traditionnels parce qu'au mois de septembre, ils ont demandé à Howie Howard de se retirer et il a refusé en disant qu'il ne voulait pas forcément voter pour n'importe quel candidat démocrate sous prétexte que pour faire opposition à Trump. C'est Joe Jorgensen, en fait, qui a eu un impact sur le résultat, indirectement sur la victoire de Joe Biden.
Oui, effectivement, le ticket est arrivé en quatrième position derrière, effectivement, le Parti libertaire. Pour le voir, il faut d'ailleurs aller sur la page Wikipédia de l'élection, mais la page américaine, parce que sur la page française, les seuls candidats qui sont présents, c'est les candidats démocrates et les candidats républicains.
Mais, et même, on n'a pas encore tous les résultats officiels. Enfin, le comptage n'a pas été encore déterminé.
Oui, on n'a pas les résultats consolidés, comme on dit. Mais essayons, Gélaré Djaounsouz Ivar, de revenir sur l'émergence de ce Green Party américain. Vous pouvez nous rappeler à quand remonte la création de ce parti et puis les conditions politiques dans lesquelles il émerge ?
Oui, en fait, c'était dans les années 80, surtout, lorsque le gouvernement Reagan, qui est arrivé au pouvoir en 81, janvier 81, ils ont essayé de mettre en place une politique de déréglementation des lois fédérales qui ont été votées dans les années 70 pour, justement, réduire les pollutions de l'air, l'eau, etc. Et donc, il y a eu un mouvement, même au niveau de tous les écologistes. Ils ont eu une croissance incroyable pendant ces années 80. Mais le Parti vert, il y a des écologistes traditionnels, il y a des écologistes un peu plus, ce qu'on appelle plus radicaux. Donc, ça a commencé dans les années, en 1984, il y a une réunion de ceux qui enseignaient dans l'Institute of Social Ecology, qui était dans le Vermont. C'est un institut d'enseignement supérieur. Ils enseignent les piliers de ce qui est devenu le mouvement vert, c'est-à-dire l'écologie, justice sociale, démocratie de base, la non-violence, même le féminisme, écoféminisme, le respect de la biodiversité, toutes ces notions qui n'étaient pas encore dans le mainstream du mouvement écologique à l'époque. Donc, ils se sont réunis en 1984, pour la première fois, donc pour former un comité de correspondance verte. Ils ont, après, il y a eu un rassemblement officiel national en 87 dans une université, c'est Hampshire College. Et c'est là où il y a des conférenciers comme Charlene Sprechner, qui était très influencée par le mouvement vert allemand, les écoféministes, une King, ou les éco-socialistes comme Howard Hawkins et Muir Bookchin qui ont participé à essayer de mettre en place l'idéologie du Parti vert.
Oui, Muir Bookchin qu'on connaît bien ici en France, hein, écologiste libertaire américain, l'un des penseurs marquants de cette nouvelle gauche à l'origine du municipalisme libertaire, on en parle très régulièrement.
Tout à fait, et c'est quand même l'approche de Howie Hawkins qui a été candidat à la présidentielle de 2020 cette année. Donc, ils se sont réunis et finalement, ils ont fondé une sorte de réseau qu'ils appelaient Network Left Green Party. C'est un réseau de gauche écologiste. Et donc, c'était la fondation qui a commencé en 88. Et officiellement, le parti qui est aujourd'hui le parti Green Party USA, il y a un autre rassemblement avec des membres un peu plus modérés, les plus radicaux, qui étaient les Left Green. Ils ont créé le Green Party USA en 91. Ce n'est pas le Parti vert qu'on connaît actuellement, mais ils ont décidé, c'est pour la première fois qu'ils ont essayé de trouver un candidat aux élections présidentielles. Parce que les Verts, dans les années 80, ils insistaient beaucoup sur l'action locale et au niveau des États. Tandis que les organisations nationales, comme Sierra Club, Wilderness Society, ils essayaient d'avoir une influence politique au niveau fédéral à Washington, D.C. Donc eux, ils avaient une action locale. Pour la première fois, cette Green Party Network, ils ont décidé de trouver un candidat aux élections présidentielles.
Et d'ailleurs, qui sera ni Howie Hawkins, qui était le candidat là en 2020, mais qui avait déjà une très forte influence dans les années 80, ni Murray Bookchin dont on parlait, mais c'est un autre homme qui s'appelle Ralph Nader, qui va se présenter en 1996 et en 2000. Et là, il faut peut-être s'arrêter un instant, Gélaré, Jaunsuz Ivar, parce que l'année 2000, c'est une année très importante. On se souvient de cette élection qui a opposé George W. Bush à Al Gore. Le Green Party était alors représenté donc par cet homme, Ralph Nader, avocat, cofondateur du parti, et à l'époque, il remporte 0,7% des votes populaires. Et on se souvient que ce vote avait été très serré, que tout s'était joué en Floride. Et il se trouve que précisément, les votes du Green Party avaient empêché Al Gore de l'emporter et avaient permis à Bush de gagner. Donc en fait, le Parti vert à l'époque avait fait basculer le scrutin.
Absolument. Surtout que dans l'État de Floride, il y avait la différence entre les deux candidats était très, très marginale. Et Ralph Nader, il avait gagné presque 97 000 voix. Tandis que la différence entre les votes des démocrates et des républicains était presque, enfin, une centaine de personnes. Donc, ils ont été vraiment stigmatisés de spoilers. C'est-à-dire, c'est eux qui ont, en fait, fait perdre l'élection présidentielle à Al Gore. Et la même chose s'est arrivée aussi en 2016. Jill Stein, qui était candidat du Parti vert, elle également, elle a eu obtenu des votes dans plusieurs États où, le nombre de votes que le parti vert a eu était plus important que la marge entre Hillary Clinton et Donald Trump.
On peut penser à l'état du Wisconsin, par exemple. Clinton a perdu à 11 000 voix près et Jill Stein avait réuni 50 000 voix. Donc là aussi, elle avait été décisive. Mais alors, justement, ce programme de Joe Biden, Gelare Jaunsuziva, il est quand même relativement verdi, en tout cas au regard des précédents programmes des candidats républicains. Comment il a été perçu par le Parti vert américain? Est-ce que son engagement en matière d'environnement a été salué par le Green Party ou pas tant que ça?
Pas tant que ça, parce qu'en fait, par exemple, un des piliers du Parti vert en 2016, la candidate, elle a fait du Green New Deal, qui était une idée qui était lancée au départ dans les années 80, même 90, par Howie Hawkins. C'était le Green New Deal pour l'Amérique. C'était en fait un projet très ambitieux, par exemple, pour mettre fin aux émissions des gaz à effet de serre juste fin en 2030, par exemple. Et le Parti démocrate a repris ce slogan de Green New Deal depuis 2018. En 2018, l'aile écologiste démocrate américain, par exemple, le représentant démocrate de New York, Alexandria Cortez, a présenté un projet de loi au Congrès qui était beaucoup plus soft que par rapport au Parti vert. Là, il y avait quelques notions, il y a le nom surtout, mais pour le Parti vert, c'était vraiment pas leur projet de Green New Deal. Pour eux, c'est vraiment une apparence de vert, mais en fait, ce n'est pas exactement ce qu'eux préconisaient. Par exemple, ils voulaient une transition très rapide vers 100% énergie propre. Ils voulaient des entreprises publiques, mettre l'accent sur l'entreprise publique, mettre fin à l'énergie nucléaire, etc. Et ça n'a pas été repris dans le programme des démocrates. Et même les démocrates à la Chambre, Nancy Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants, elle ne l'a même pas présenté. Elle n'a pas voulu présenter ce... Donc, pour le Parti vert, le Parti démocrate, n'a pas les mêmes priorités écologistes qu'ils souhaitent.
Merci beaucoup, Gelare Jaunsuziva, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire et de civilisation américaine à l'Université d'Angers. Green is Blue de Neil Young. Alors, je ne sais pas si Neil Young pensait au vert du Green Party et au blue du Parti démocrate. En tout cas, il est clairement question de sujets environnementaux dans ce morceau. Merci beaucoup à Sophie Mérité et Maya Candel qui est avec nous ce matin pour nous éclairer sur ces enjeux climatiques du côté des États-Unis. Les enjeux climatiques mondiaux, on s'y intéresse toute cette semaine, 5 ans après l'accord de Paris. Grand bon ou grand bluff, on se retrouve demain, on parlera de la Chine. Dans un court instant, c'est Olivia Gesbert et la Grande Table. Mais d'abord, on retrouve Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et avec vous, on reste du côté des États-Unis. Il ne saurait y avoir quelque chose comme une internationale populiste de droite. Et pourtant, la défaite électorale de Donald Trump inquiète les gouvernements européens qui avaient noué avec lui des liens particuliers.
Oui, you're fired, vous êtes viré. C'est par ces mots devenus un mantra de la vie sociale aux États-Unis que se concluait l'émission de télé-réalité qui a rendu célèbre le milliardaire Donald Trump. Son programme célébrait l'astuce des winners, les gagnants, en démolissant la dignité des losers, les perdants, dans la grande tradition américaine. Et à présent, il faut le rappeler, c'est à Donald Trump que la majorité de l'électorat américain a lancé la fameuse apostrophe You're Fired, par un écart de 7 millions de voix entre son propre score et celui de Joe Biden, qui se traduit par 306 grands électeurs contre 232. Un sobre routier de la vie politique a battu le populiste tonitruant, d'où la question que beaucoup se posent, le moment du reflux de la vague populiste est-il arrivé ? Le PiS polonais et le Fidesz hongrois, deux des partis populistes de droite actuellement au pouvoir, avaient tissé avec l'administration Trump des liens étroits. Son remplacement par le démocrate Joe Biden risque de leur poser de sérieux problèmes. Or, un conflit oppose, comme par hasard, ces deux pays, vaguement soutenus par la Slovénie, aux autres États membres de l'Union européenne. Leur gouvernement bloque le plan de relance européen de 750 milliards, ainsi que le budget européen de 2021-2027. Motif, ils refusent que la Commission puisse conditionner les versements des fonds européens au respect des règles de droit par les États. Qui se sent morveux se mouche, car comme l'écrit George Soros sur le site Project Syndicate, la Hongrie et la Pologne violent effrontément l'État de droit et l'on comprend que leur gouvernement ne veuille pas d'une quelconque conditionnalité à cet égard. Je suis particulièrement inquiet de la situation en Hongrie, où je suis actif en tant que philanthrope depuis 30 ans, écrit Soros. On y a construit un système élaboré de kleptocratie pour voler impunément les richesses du pays. Orban a organisé un transfert de l'argent public vers des fondations qu'il contrôle au profit de sa famille et de ses amis. Et de son côté, le Polonais Sławomir Sierakowski estime que les gouvernements de ces deux pays se sont servis de Donald Trump ces quatre dernières années, pour narguer l'Union européenne. À présent, il se retrouve, dit-il, tout nu en plein hiver. Il n'y a pas que la Russie, le Brésil et la Turquie pour se désoler du départ de Trump, pour les dirigeants de la Pologne, la Hongrie, la Serbie, mais peut-être aussi pour Boris Johnson, c'est un désastre personnel.
Et oui, Brice Orban avait affiché la couleur en disant que la réélection de Trump faisait partie de son plan A.
Or, il n'a manifestement pas prévu de plan B. Personne à Budapest n'a oublié les critiques qu'avait émises l'administration Obama sur la manière autoritaire dont Orban gérait le pays. Biden était alors vice-président et les tendances autoritaires d'Orban se sont aggravées depuis. Mais Orban, juge Sierakowski, est un jongleur. Tout en maintenant de bonnes relations avec la Russie et même la Chine, il a su s'attirer les bonnes grâces de la CSU bavaroise. Et il continue à bénéficier au Parlement européen du parapluie protecteur que lui offre l'appartenance de son parti au PPE, le grand parti de centre-droit. Le gouvernement polonais, par contre, a beaucoup de soucis à se faire en ce moment. Car le PiS au pouvoir entretient des relations exécrables avec la Russie de Poutine, mais il avait cru trouver du côté des conservateurs britanniques des alliés en Europe et avec les républicains à Washington de puissants protecteurs. Mais les changements, malgré les changements de gouvernement, la ligne directrice de la diplomatie polonaise depuis le retour de la souveraineté et la fin du pacte de Varsovie en 1989 avait toujours été d'une grande constance. Il s'agissait de ni dépendance ni isolement. Or, depuis le Brexit, le pays n'a plus de véritable ami au sein de l'Union européenne. Et avec la défaite de Trump, il risque de perdre l'appui diplomatique et militaire américain. C'est le soutien politique américain qui avait permis ces dernières années au gouvernement Morawiecki de tenir la dragée haute à Angela Merkel en Europe. C'est fini. Quant à Boris Johnson, ce n'est certainement pas lui un apprenti dictateur comme Orban, mais plus probablement un bouffon. Or, lui aussi perd avec Trump, favorable au Brexit, un allié de poids. La perspective de l'accord commercial bilatéral avantageux que le président américain avait fait miroiter aux Britanniques devient beaucoup plus douteuse. En outre, Joe Biden, catholique d'origine irlandaise, a d'ores et déjà fait savoir qu'il se portait garant des arrangements négociés par Tony Blair en Irlande du Nord. Décidément, sale temps pour les populistes européens.
Merci Brice Courturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, mais aussi sur l'application Radio France. On vous retrouve demain et dans quelques instants, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.
France Culture. L'esprit d'ouverture.